Salut Marquez Smart et bienvenue dans Catch Up Raw, votre émission hebdomadaire représentée par la team des cahiers du catch. Je ne sais plus parler, je suis Hank et aujourd'hui je suis accompagné par l'amiral Armbar.
Salut tout le monde, salut Hank, et ça fait un moment qu'on n'a pas décortiqué, commenté ensemble un épisode d'Euro, donc je suis content d'être là.
C'est vrai. Nous sommes deux enregistreurs, désormais presque streamers, donc du coup nous nous répartissons quelquefois les rôles. Mais là aujourd'hui, donc du coup, c'est la team Hill finalement, hein, de Catch Up, qui se réunit pour parler de ce Raw du 9 octobre. L'Euro sous le signe des chiens, des loups. Vous allez savoir de quoi je parle dans deux minutes. Ça a commencé avec le Miz qui débarque pour un nouveau Miz TV spécial avec comme invité ou du moins co-présentateur Curtis Axel. Et ce soir, c'est les Mizis qui sont de retour, hein, c'est une espèce de Grammy du Miz.
Ça nous avait manqué les Mizis, hein, c'est sûr que...
Voilà, les Mizis qui deviennent finalement une cérémonie de récompense qui arrive toutes les deux semaines. Et donc le Miz nous rappelle qu'il a laminé Roman Reigns la semaine dernière, hein, avec l'aide de Cesaro. Hein. Il l'a plié en deux, il l'a powerbombé. Donc du coup, il est passé à ce moment-là du A-lister au guy, comme dit Roman Reigns, I'm the guy. Le premier Mizi, il est remis à Curtis Axel, hein, pour sa persévérance face à l'adversité.
Bien mérité.
Donc Curtis est très touché, hein, et puis il remercie le grand absent de cette soirée, c'est Bo Dallas. Donc peut-être blessé, on ne sait pas.
Ouais, il est blessé. Ouais, a priori, en tout cas, il serait blessé, ou du moins il ne serait plus là pour le moment, puisqu'effectivement il est absent du ring et il leur envoie leurs vœux de bon rétablissement. Donc
voilà. Donc Bo n'est pas là, mais voilà, un grand hommage au grand Bo. Le second Mizi, c'est pour meilleur acteur de second rôle. Alors c'est un Mizi ex aequo, puisque c'est pour Cesaro The Bar. Sheamus vient remercier, donc du coup les Cesaro ils arrivent, hein, pour prendre leur prix, et puis ils viennent remercier, donc Sheamus remercie Roman pour avoir été leur victime. Cesaro sourit en grand avec son protège-dents tout noir, et il essaie de dire quelques trucs, c'est pas très intéressant, et il remercie Rollins et Ambrose de lui avoir défoncé les dents, parce que sinon il aurait pas eu cette motivation pour massacrer Roman Reigns. Le Miz dit que même si le Shield tente de se reformer, ça ne marchera pas, hein, tout ça c'est de l'esbrouf. Et il dit aussi qu'il a fait que, donc du coup, le Miz a fait mieux que l'Undertaker, mieux que Lesnar et mieux que Cena réunis, puisqu'il a réussi à éliminer Roman Reigns, entre guillemets, pas dans un match, mais bon. Le Miz décide donc de s'attribuer le Mizi, je sais plus exactement, c'est un peu le héros, quoi, de toute cette histoire. Et le public crie « You deserve it ». Donc tu le mérites, hein, pour nos amis francophones. Roman Reigns, à ce moment-là, arrive, le Big Dog. Forcément, hein, il arrive à tous les premiers segments de Raw depuis un an.
Ouais, c'est ça. Depuis qu'il n'y a plus l'autorité, en gros, c'est Roman Reigns qui, un coup sur deux, le présente. Ouais.
Bon, là, il était concerné. Donc, il dit au Miz de la fermer, hein, sinon il va les dégager de son ring. Hein. Le Miz lui dit les rumeurs de reformation du Shield ne sont que des foutaises, vu que le Big Dog, il est tout seul là, à aboyer. Mais Roman répond « Qui a dit que c'était des rumeurs ?» Et là, on entend... C'est Dean the Lunatic Fringe, Ambrose, qui arrive aux côtés de son Big Dog. Il en manque un. On fait un petit peu durer le suspense. Il y a un petit flottement de 15 secondes. Et puis là, c'est... Burn it down! C'est freaking Rollins qui arrive. Donc voilà, ils se réunissent au centre, hein, chacun se chauffe. Le Shield avance vers le ring, hein, il se place autour du ring. Un pur moment de nostalgie, hein, le Shield qui se met en triangle autour du ring. et puis à l'ancienne, bah, ils rentrent et puis ça bastonne. Rollins est sur Sheamus, Ambrose est sur Cesaro, Reigns est sur le Miz, ça balance du Superman Punch. Rollins fait son finisher que Michael Cole ne connaît toujours pas, donc ça s'appelle non. The Knee.
Exactement. Ça ne mérite pas d'autre nom que ça, en fait. Hein.
Voilà. Et une fois que le Miz a fini de courir dans tous les sens et qu'il est encerclé, il se prend, donc il est ramené au milieu du ring, il se prend un Dirty Deeds et une triple powerbomb. Après, c'est le match d'après, donc du coup je vais en rester là. Qu'est-ce que t'as pensé de ce segment pur fan service?
C'est ça, voilà, c'est un peu une Madeleine de Proust du catch de revoir le Shield. Alors bon, forcément, on s'en doutait fortement depuis la semaine dernière avec les interactions croisées entre Roman Reigns, Seth Rollins, Dean Ambrose et le Miz et Cesaro et Sheamus. Et forcément, c'était assez logique que c'était une question finalement de semaine hein, avant qu'on les revoie tous les trois ensemble dans le ring. Là, je pense qu'ils battent le fer tant qu'il est encore chaud. Ils essaient de capitaliser pour donner une injection de pop qui lui manque à ce bon Big Dog Roman Reigns. Donc voilà, c'est clair que c'est cool de les voir ensemble. Et puis en plus, la perspective d'avoir un match, un vrai match entre ces six-là est plutôt intéressant, plutôt cool. Donc moi, j'ai hâte de voir ça. Et c'était en tout cas efficace. En tout cas, le côté nostalgie, moi, ça a marché.
Oui, oui, voilà. Bah, ça a été direct. Je trouve, en général, sur ce Raw, ils se sont plutôt bien débrouillés parce qu'ils auraient très bien pu faire des semaines et des semaines de teasing sur le Shield. Ils ont préféré nous donner des indices séparés de plusieurs semaines pour garder le suspense. Et bon, le suspense n'existait plus la semaine dernière, mais voilà, on est. Je pense que tout le monde est content, à part les aigris hardcore, tout le monde est content.
Ouais, c'est ça. En plus, il y a des TLC qui est dans deux semaines, donc du coup, si on veut en faire un match, va falloir qu'on joue les cartes rapidement.
Désolé de te couper.
Ah, je t'en prie. Non, c'est bon, j'avais fini la phrase. Il faut jouer maintenant.
C'est un pay-per-view typique tag team TLC juste après. Donc c'est parfait, quoi. C'est le bon moment pour les ramener. On fait un petit coucou donc sur le chat parce qu'on diffuse en direct en ce moment. Enfin, vous pouvez regarder bien sûr la rediffusion, mais on diffuse en direct. Et donc on a Camille Bourg et Tristan sur le chat. Coucou, merci d'être venu. Donc on va repasser du coup à la suite. C'est le match des Good Brothers. Donc Luke Gallows et Karl Anderson qui donc du coup ont été victorieux contre Matt Hardy et Jason Jordan la semaine dernière. Et donc, eh ben, on a un petit match Anderson contre Jason Jordan. J'allais dire pas grand chose à raconter. Malgré une intervention de Gallows, Jordan gagne.
C'est un bon résumé.
C'est un match correct. J'ai pas vraiment. Enfin, voilà,
non, en plus, ouais, jusqu'avec la différence de gabarit, Jordan peut déployer toute sa puissance et envoyer le pauvre Karl Anderson dans tous les coins du ring. Hein, donc là, c'est sûr que les Good Brothers jobent un petit peu pour cette nouvelle superstar qui a du mal, hein, le fiston de Kurt Angle, à accrocher avec la foule. Donc ils enregistrent des victoires pour un peu monter son power ranking, comme on dit, mais. Pas très intéressant, quoi.
Ouais, tout ce que ce match nous a prouvé, c'est que Jason Jordan, il est bon dans le ring, hein, il est toujours aussi,
aussi
efficace, il fait pas d'erreur, je dis il fait pas d'erreur, je l'ai déjà vu faire des souplesses un peu en diagonale il y a quelques semaines, mais sinon c'était bien. Ça flotte, quoi. On sait pas trop où ils veulent en venir pour l'instant, je trouve.
Bah, ils montent le personnage, ils lui font faire des matchs, ils gagnent parce qu'il est bon dans le ring et c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Ils ont du mal à trouver la personnalité, donc ils capitalisent sur son point fort.
C'est qu'il démarre quelque chose. En fait, il démarre sur une rampe de lancement comme ça. Ils mettent des matchs intercontinentaux, machin et tout. Et puis après, finalement, non, bah alors on va faire le but normal. Mais du coup, c'est en sens inverse.
Ouais. Mais ça, je trouve ça me choque pas dans le sens où quand ils veulent créer une histoire, là, il y avait l'histoire avec le fils caché de Kurt Angle. Il est arrivé un peu en grande pompe par rapport à ce qu'il aurait pu faire normalement. Je pense qu'ils testent, ils voient si ça prend le public. Si ça prend le public, la courbe continue de monter. Ce qui est déjà arrivé à certaines personnes, hein. Mais quand ça prend pas vraiment, ils essaient de repasser vers un build normal, comme tu dis, parce que faut essayer d'une autre manière.
Voilà, non, mais rien de choquant. En coulisses, on a Kurt Angle qui bafouille un peu devant le Miz, hein, pour finir par dire qu'il y aura un TLC match Shield contre Cesaro en main event. Donc elle l'adore match, hein, il me semble.
Bah non, TLC, hein, donc Table, Ladders and Chairs.
De toute façon, je sais pas s'il l'a précisé. Mais tu sais, après, il y a toujours des matchs. Enfin bon, là c'est le main event, donc c'est forcément un ladder match.
Bah c'est les trois, hein, c'est un match table, chaise et échelle. Donc, hein.
Table, chaise et.
Ouais. Extreme.
C'est l'heure du drifter. Qui nous demande comme chaque semaine Who wants to walk with Elias? Et là le public dit moi oui. Alors Apollo Crews, enfin il parle d'Apollo Crews, hein, il dit au public qu'il va jouer sa chanson et que le public va devoir la fermer, quoi. Il essaie de se monter un petit peu la hit parce que le public est vachement gentil avec lui. Et puis le public est tellement à fond qu'il dit bah finalement j'ai pas joué mon morceau. Et le public là refait yeah. Donc du coup là tu te dirais n'importe quel superstar est un petit peu genre qu'est-ce que je fais et tout ça. Et non, pas du tout. Et il fait je déconne, j'aime trop le son de ma voix pour ne pas chanter ce soir. Hop, il commence sa chanson. Mais bizarrement, sa guitare sonne très désaccordée. Eh bien, c'est pas sa guitare qui est désaccordée, c'est le banjo de Titus O'Neil. Et oui, Titus O'Neil qui est devant le Titan Throne et qui gratte sur un banjo en faisant semblant de faire des notes, mais dès qu'il gratte, en fait, il lâche toutes les cordes, donc ça ne veut rien dire. Voilà, il chante une espèce de truc merdique disant que Elias va perdre, que Apollo va gagner, tout ça. Apollo contre le Drifter, 10e édition.
Donc, ten.
Apollo, donc j'ai noté quelques petits trucs. Apollo se blesse à l'épaule à un moment. Hein, je ne sais pas si c'est en kayfabe ou pas, mais en tout cas, on le voit. Il cave une fois son finisher, mais ça ne passe pas. Le Drifter kick out et ensuite Elias. Un peu plus tard, hein, peut-être une minute après, case le Driftway, réussit le tomber, décidément. Apollo Crews, enfin le Drifter est la bête noire d'Apollo Crews. Sans jeu de nom.
Il y a un peu tout le monde qui est la bête noire d'Apollo Crews en fait depuis le début de sa carrière en main roster. Hein. Enfin c'est.
On a la poisse. Hein. Ouais. Écoutez, il faut qu'il trouve le bon adversaire.
Ouais.
Callisto, tu vois, Callisto, il faut. Enfin, on en parlera plus tard.
Non, mais voilà, bon, mais il continue à faire un build-up là aussi pour le Drifter en faisant gagner dans les matchs. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est effectivement la pop qu'il est au début au final, quoi. C'est que ça, son petit buff musical toutes les semaines, ça fait une pause agréable au public. Je pense qu'ils aiment bien ça. Pas forcément ce qu'il fait dans le ring, pas forcément son personnage, mais je pense qu'ils aiment bien jouer avec et contre en se foutant un peu de la gueule finalement d'Elias. Donc ça prend plus que ce que j'aurais cru, moi. Moi, vraiment, quand il est arrivé dans main roster, je me suis dit, oh là là, il va être jobber au fin fond du trou. Et je suis vraiment surpris de voir que ça prend, pas dans des proportions énormes, mais qu'il y a une réponse, quoi. Je sais pas si toi, t'avais prévu ça ou pas, mais moi, j'avais pas anticipé.
Je vais pas dire que j'avais prévu ça parce qu'il était pas tant au micro à NXT, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait quelque chose dans le personnage qui le rendait vraiment marrant à suivre dans le côté... Au début, il y avait le côté mec qui a une gimmick un peu pourrie et que tout le monde déteste, mais du coup qui est toujours grincheux. En fait, il était pas vraiment agressif, il était juste grincheux en permanence. Et tu croyais, enfin, et ce qui marchait en fait et ce qu'ils ont développé dans le truc, c'est que au début sa gimmick de guitariste, en fait, on le voyait pas vraiment, on le voyait juste avec une guitare, mais il grattait pas ni rien, etc. Et du coup, le fait qu'il est tellement impliqué dans, en fait, que au fur et à mesure, on a vraiment l'impression que c'est un musicien, quoi. On a vraiment l'impression qu'il est passionné par ça. Du coup, ça devient de plus en plus drôle. Et,
ouais.
Et ce qui est génial, c'est qu'à Raw, ils ont réussi. C'est une des rares réussites, enfin, de mecs qui viennent d'NXT. Ils ont réussi à développer le gars. C'est pas un truc de fou ce qu'il fait, mais à développer le gars et à le laisser dire ce qu'il veut, hein, parce que des moments on sent qu'il y a des petites pointes d'improvisation sans l'aide de Corey Graves, parce que c'était le gros doute avec NXT, c'est que tout le personnage d'Elias Samson était basé sur
les Corey commentaires
Graves, ouais. Les monologues et les monologues de Corey Graves sur Elias Samson font partie des meilleurs moments d'NXT des dernières années. Il y a des moments où il le trash, il passe genre de du moment où Elias rentre dans la salle d'NXT au moment où il sort, il se fait trasher tout le temps.
En continu.
Il balance des vannes, je sais pas, incroyable quoi.
Mais c'est vrai que t'as raison, ils ont légèrement changé le personnage, parce que début d'NXT, il jouait pas de la musique, il avait sa guitare, il avait plein de billets en fait sur le manche de la guitare, un peu comme un mec dans la rue qui va gratter trois morceaux et les passants donnent un billet. Là maintenant, ça fait plus effectivement le guitariste chanteur qu'on verrait dans une sorte de petit club de rock folk.
Ouais. Donc, ouais, puis ce qui est génial, c'est que comme il change de ville, enfin c'est ce qui forcément ça se passe pas à NXT, c'est la même ville tous les soirs, enfin tous les soirs, tous les enregistrements. Mais là, comme il change de ville tous les soirs, c'est ça qui est génial, c'est que c'est, il y a, en fait, c'est presque de l'humour de concert en fait.
Ouais.
Le fait que à chaque fois il change de ville, à chaque fois il dit salut, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Et il fait bah non, vous êtes tous des sous merdes. Bon, laissez-moi chanter. À chaque fois, ça marche à chaque fois. Je sais pas combien de temps ça va marcher, mais ça marche à chaque fois pour l'instant. Enfin bon. Donc j'adore Elias. Je trouve que dans le ring, il est de plus en plus au moins potable. Donc voilà. Un heel qui sait se débrouiller au micro et qui fait des choses correctes dans le ring, on appelle ça le Miz aujourd'hui. Donc.
Ouais, on appelle ça le Miz il y a 10 ans. Voilà. On peut dire un Baron Corbin, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu la même trajectoire qu'il peut prendre.
Ce que je veux dire, c'est qu'au mieux. Au mieux, dans la trajectoire, il peut arriver à cet endroit-là, mais vraiment mieux. Mais ça montre qu'il n'y a pas besoin d'être un champion du work rate pour faire sa place et pour faire main event de TLC. On va passer donc du coup à la suite. C'était donc du coup Enzo qui arrive dans le ring et qui demande des comptes à Kurt Angle. Parce que, donc du coup, si vous n'avez pas suivi la semaine dernière, Enzo, du coup, n'avait plus d'adversaire pour sa ceinture, parce qu'il a son petit contrat signé par Kurt Angle qui dit « Toutes les personnes qui touchent Enzo Amore n'ont plus le droit d'aller à la conquête du titre, enfin de l'affronter. » Mais, en fait, il y a un catcheur qui a été embauché après la signature de ce contrat, et bien, c'est Kalisto qui est apparu à la fin du Raw dernier, habillé façon chevalier du Zodiac, XOR,
ouais.
Quelque chose du genre.
C'est ça, méchant Power Rangers.
Voilà. Et donc,
je me demande d'ailleurs si jamais il se fait battre, est-ce qu'il y a un mec qui débarque et il fait grossir la tête d'un immeuble comme dans Power Rangers, un Kalisto géant, ça serait un bon match ça.
Non, merci.
Et il faudrait que tous les cruiserweights restants s'associent pour faire une sorte de gros mec ou un robot pour pouvoir le battre. Ah, ça ferait un bon pitch de jeu vidéo.
C'est pas faux. Mais là, donc du coup, Kurt Angle a programmé le match Enzo contre Kalisto à TLC pour le titre Cruiserweight. Donc Enzo n'est pas content. Et Kurt, il dit que le contrat s'applique juste... donc le contrat qui empêchait les Cruisers d'affronter Enzo, il s'applique juste aux Cruisers signés avant la signature de contrat. C'est un peu pour expliquer pourquoi Kalisto, même s'il a touché Enzo, en fait, il a le droit quand même à son match. Enfin bref, c'est un peu compliqué, mais Enzo lui explique que c'est lui le Realest Champ in the Room, donc du coup, il doit être chouchouté, hein. C'est lui la cash machine, hein. Donc du coup, il va falloir un peu changer ça. Donc Kurt, il dit, ok, oublie le match à TLC, hein, on va annuler ça. Tu vas défendre contre Kalisto ce soir. Et ouais, ce soir, la ceinture est en jeu. Les Cruisers, une nouvelle fois, en main event. Oui, bon, j'ai un peu zappé la fin du segment. Donc, à la fin du segment, Enzo, il dit, bon, d'accord, mais je veux être en main event. Et donc, voilà, et finalement, ils sont en main event. Ce qui est logique, de toute façon. Et alors que Kurt montait la rampe, pour revenir dans son vestiaire, il arrête sa musique de départ pour prévenir « Et Enzo, tu vas pas te faire disqualifier ou autre chose ou faire tes conneries parce que ce match sera un Lumberjack match et je suspends le contrat pour ce soir. » Enfin, ça devient très compliqué ces histoires de contrat.
Surtout qu'on en a rien à foutre.
Non, mais en fait, tu sens, il y a un gars, il y a un nouveau gars en fait qui est arrivé la semaine dernière dans l'équipe des writers et qui a fait, ok les gars, alors moi j'aime bien la cohérence, donc je vais en foutre partout, Il y a des moments, c'est un peu too much.
C'est ta faute, c'est toi. Ils sont tombés sur tes vidéos où tu te plains du manque de cohérence parfois dans les storylines. Ils se sont dit, bon, il faut qu'on écoute ce gars-là, ce Hank du catch-up. Il faut qu'on lui fasse plaisir. Mettons de la cohérence juridique, ça va lui plaire.
Mais même ça, c'est pas cohérent parce que s'il a le droit de mettre le contrat en pause ce soir, pourquoi il peut pas le mettre en pause n'importe quand?
Oui, non, mais c'est comme on débile. Enfin, c'est...
Le serpent se mord la queue. Hein,
on marche sur la tête, monsieur.
Voilà, bon, t'as quoi de...
On fait son vrai Wyatt. Non, bon, c'était assez inutile le côté tout ce qui porte sur le juridique parce que finalement on s'en fout, c'est pas très important, on a compris l'esprit, ça a raconté l'histoire que ça devait nous raconter, donc c'était pas très utile, je trouve, de discuter des dates, de machin, c'était pas très cool. On a tout ça pour aboutir à un segment de 5-10 minutes même, pour aboutir à ok, t'as un match de championnat contre Kalisto, bon bah merci, good job Sherlock, on s'est plus la semaine dernière quoi. Voilà, seul la donne, c'est que c'est un lumberjack match, alors je me dis ok, pourquoi pas. Parce que avec l'ambiance du vestiaire Cruiserweight par rapport à Enzo, ça peut être intéressant de les avoir parce que ça sera tous les Cruiserweights contre Enzo et pour Kalisto, puisque si Kalisto devient champion, ils pourront à nouveau prétendre au titre, parce qu'il y a aussi cette clause-là. Voilà, je me suis dit, dans ce cas-là, peut-être que Lumberjack peut être intéressant. Ouais. Peut-être. Le mot-clé, c'est peut-être.
Un facteur très important dans toute cette histoire qu'on verra plus tard, c'est que les Cruisers sont complètement cons.
Exactement.
On verra plus tard. Je sais pas si ton micro a coupé ou si t'as dit quelque chose.
Non, j'ai rien dit à part exactement, tout à fait. J'approuvais visuellement, genre yes, ils sont vraiment très cons.
On a un nouveau match, c'est Braun Strowman contre Matt Hardy, le suicidaire.
Je pense que le fait que Matt Hardy soit contre Braun Strowman, c'est aller un peu trop loin dans son gimmick de Team Extreme, quoi. Faut arrêter, Marthe.
S'il voulait se faire delete, hein, c'était là. Ce que j'ai noté du match, bon, il y a un petit moment où Matt Hardy réussit un tornado DDT, Twist of Fate, moi ça suffit pas, hein, il se fait kick out en 1. Running Power Slam, 1, 2, 3, c'est fini. Ça a duré 2 minutes, il s'est fait traîner comme
squasher. Il s'est fait squasher.
Comme une serpillière.
Ouais.
Strowman prend Matt sur son dos, hein, et puis apparemment il veut le ramener à sa grotte.
C'est ça.
Mais à ce moment-là, eh bien c'est le Shield, oh mon dieu, Michael Cole s'en rend compte. Le Shield est reformé, ça fait juste 2 semaines qu'on le dit. Ils s'abattent sur le monster, hein, tel une horde de loups. Et ils décident, après l'avoir bien diminué, d'aller vers la table des commentateurs. Bien sûr, Booker T, Corey Graves, Michael Cole, tout le monde s'en va. Et ils décident, bon... Donc de le powerbomber dans la table des annonceurs. Et juste après, Braun Strowman raterrit un petit peu sur le côté et tombe encore plus bas. Donc voilà, je sais pas si c'était prévu, mais ça devait faire un petit peu mal juste après ça. Le public est en émoi. Michael Cole, le seul mec au monde qui doutait encore que le Shield revenait, a été rassuré par le fait qu'ils ont leur propre nouveau t-shirt en ce moment. Ils ont déjà leur t-shirt. Donc voilà, c'était encore une petite séquence fan service.
Ouais. Comme dit Tristan sur le chat, Matt s'est fait broken par Braun Strowman, hein, ça c'est clair. Hein. Alors peut-être qu'il reviendra reborn Matt après ce match. On sait pas exactement ce que Braun Strowman voulait faire avec Matt Hardy au final. C'est très étrange. Surtout qu'en fait au début je pensais qu'il prenait sur les épaules et qu'il allait le balancer sur l'écran des LED, un truc comme ça. Mais ils ont fait
la caméra a ralenti en fait. Je me suis dit qu'en fait c'était parce qu'il allait prendre son élan et le rentrer dans les LED.
Ouais. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'ils ont lancé sa musique. Alors que généralement quand il y a un heel qui prend un fesse comme ça pour tabasser aux abords du ring, il lance pas la musique du heel qui va continuer à tabasser sur sa musique. Le mec, quoi, ils arrêtent toute musique, donc j'étais un peu surpris. Bon après le shit qui débarque, peut-être qu'ils vont capitaliser sur le Hands of Justice. Donc les limiers de la justice et elles se faire, puisqu'ils sont tous les trois fesses, ils vont faire régner un peu, faire leur loi un peu, les shérifs Arrow et punir les vilains qui veulent emmener les Matt Hardy dans leur grotte. C'était cool, fan service encore une fois. Ce truc qui m'a saoulé, c'est un détail, hein, ce truc qui m'a saoulé dans ce segment, c'est le t-shirt.
Oui, enfin, moi ça m'a pas
plu, putain.
Mais ça m'a fait rire.
C'est juste tellement con. Déjà, il est moche, il est super laid ce t-shirt. Ils avaient l'opportunité, niveau t-shirt, pour faire un nouveau t-shirt du Shield, de bosser un design super classe, pour un peu arriver à un niveau de Bullet Club-esque, un t-shirt qui vraiment qui a un impact visuel et qui marche niveau marketing, parce que le Shield, c'est un gros truc, c'est vraiment du fric, quoi. Et ils arrivent avec ce design pourri, ils le mettent là maintenant? Non, ils attendent une semaine au moins, je sais pas.
Mais c'est le Shield, tu mettras un caca dessus, ça va se vendre quand
même.
Bah après, il a un design qui est proche du t-shirt que moi j'ai acheté. avec des chiens.
Oui, bah celui des loups était mieux.
D'accord. Et bah, c'était celui qui était dispo là il y a quelques mois.
Celui des loups était mieux. Là on voit leurs trois points.
Il annonçait justement la reformation du Shield finalement, parce qu'ils n'avaient pas fait de t-shirt Shield depuis un bail. Donc bon, on sentait quand même le truc venir. Passons au troisième âge avec Mickey James qui arrive sur le ring habillée en cowgirl de film porno. Elle se plaint que tout le monde se fout de sa gueule. Elle demande si c'est parce qu'elle chante de la country ou si c'est parce qu'elle est vieille.
Ou parce qu'elle se fringue comme ça, on ne sait pas. Parce qu'elle
se fringue comme une gamine de 13 ans peut-être. Ouais. Ça, elle ne s'est jamais demandé. Bref, elle raconte sa vie au public hein, en mode bon, alors vous savez ce qui s'est passé à Monday Night Raw la semaine dernière? Alors je vais vous raconter. Donc Alexa arrive et elle dit écoute Mickey, je suis vraiment désolé hein, pour tout ce qu'on a pu te faire subir hein. Je sais plus ce qu'ils lui ont offert la semaine dernière là, le cadeau ridicule.
C'était des couches je crois pour des futurs urinaires, un truc comme ça pour les vieux.
Ah voilà, des couches pour les futurs urinaires. Ouais voilà, on est désolé pour tout ça et tout. Et puis bon, j'ai bossé toute la semaine, j'ai fait un montage vidéo du condensé de ta carrière et voilà, roll the clip. Donc du coup voilà, on voit une vidéo façon années 30 un peu noir et blanc avec un commentateur qui parle genre la carrière de Mickey James a commencé il y a bien longtemps et des trucs comme ça. Donc finalement, il n'y a pas d'image vraiment embarrassante dans le truc. C'est juste ses victoires, mais c'est filmé en noir et blanc. Donc voilà, comment ça s'est terminé? Est-ce que j'ai noté la fin de ce segment?
Alors, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a
Mick demande que Alexa... Désolé, ouais, je viens de m'en souvenir. Mick demande qu'Alexa vienne dans le ring, hein, parce qu'elle dit « Je suis vieille, alors je suis sourde d'oreille. Hein, viens donc me dire ça en face. » Et donc du coup, Alexa, elle arrive vers le ring et une très jolie phrase qu'elle sort. Elle est devant le ring et juste à ce moment-là, elle va pour se retourner, donc retourner au vestiaire et elle dit un move aussi vieux que toi. Enfin le move donc du coup, le move du heel qui avance vers le ring pour ensuite se tirer comme un lâche. Mais à ce moment-là, Mickey va pour la choper, je crois. Voilà. Est-ce qu'elle s'échappe, Alexa Bliss?
Ouais, au final, oui, il y a Mickey James qui met quelques coups, notamment un kick dans la bouche avec sa Bliss qui, au final, retreat sans revoir la queue entre les jambes.
Voilà.
Donc, ouais, bah, des promos décentes, hein, des deux, hein. On peut autant critiquer le fond d'histoire, savoir ce qu'on nous raconte, que l'axe de rivalité entre Bliss et Mickey James soit Alexa Bliss qui se fout de la gueule de Mickey James en la faisant passer pour une vieille. On peut critiquer ça, mais le fait est qu'elles délivrent toutes deux la promo de façon tout à fait correcte, quoi. Ça, c'est plutôt bien fait. Après, ouais, le fond, il n'y a pas grand chose à sauver. Peut-être que le match sera pas mal, hein. Il y a un potentiel à ce que ce soit intéressant.
J'ai beau me moquer le au moins le truc c'est que on est tellement au fond du trou pour la moitié voire les trois quarts du roster féminin au niveau micro que Mickey James qui sort une promo à peu près potable malgré son accoutrement, sans déconner, faut qu'elle arrête de s'habiller comme ça, quoi.
C'est pas cowboy, c'est indien, c'est bien indienne, elle a des trucs effectivement à franges indiennes, des petits bijoux bleus, etc. Donc ouais, Pocahontas, quoi. C'est un peu une Pocahontas texane dans un strip club, quoi. On se rappelle un peu l'attitude des RA féminine, quoi.
Texane dans un strip club.
Ouais.
référençant toute l'histoire des Indiens.
Exactement.
Donc du coup, malgré tout ça, oui, la promo est potable. Mm. La vidéo était pas justement, il y a apparemment.
Elle était pas très.
Peut-être qu'on a peur du Bailey, de Bailey 2,
Sur
Life. C'était pas ça.
C'était pas trashy, ça restait propre, ça se foutait toujours de la gueule de la différence d'âge, mais ça allait pas dans le glauque, machin. Ils ont pas parlé de l'explosion mammaire de Mickey James, enfin d'une prothèse qu'elle a eue, enfin voilà. Ils ont su rester plutôt soft.
Ouais, et donc là on va continuer sur les femmes avec un clip qui annonce l'arrivée de Asuka à TLC. Et juste après ce clip. On a une promo difficile de tout le roster féminin qui se chamaille, hein, parce que les femmes se chamaillent tout le temps, c'est comme ça. Pour être donc l'adversaire d'Asuka, hein, y a Kurt Angle qui est au milieu, un peu perdu. Donc chacune y va de sa petite phrase, ah, mais moi je mérite plus parce que blabla, moi je mérite plus parce que blabla, ah Sasha Banks, moi je suis the boss, hein, donc du coup l'affiche elle serait géniale, puis en plus j'ai jamais affronté Asuka, oh là là c'est formidable, on va avoir un Fatal Five Way ce soir entre Bailey, Sasha Banks, Dana Brooke, Emma et Alicia Fox pour le droit de se faire démonter par Asuka à TLC. Mais ouais. Ça c'est pas tout de suite. Est-ce que t'as un commentaire sur ce segment?
Non, juste on parlera après une fois le match fini, mais c'est plus où est Nia Jax. Je sais pas si elle est blessée, elle a un truc, parce que je l'aurais aussi vu potentiellement intervenir sur ce segment, quoi. Ou du moins intervenir pour dire les filles. Alors il y a Bailey, peut-être qu'elle connaît parce que Bailey a affronté Asuka, mais moi j'ai affronté Asuka. Je vois pas pourquoi il y a des gens qui se battraient pour affronter Asuka. Tu vois, à part les fesses qui sont genre super valeureux et qui vont devant toute difficulté, les heels auraient pas intérêt à vouloir se frotter à Asuka.
Mais en fait,
c'est une tueuse. Elles vont mourir. Donc,
parce que c'est un syndrome de la WWE en ce moment, c'est que on commence à avoir un 50-50 entre le kayfabe et des superstars qui vivent un peu dans la réalité en fait. C'est-à-dire que tu peux comprendre leur motivation dans la réalité, c'est-à-dire être contre Asuka à TLC, tout le monde va regarder ça, c'est même si tu perds, tu vois, tu vas avoir un beau match normalement. Donc finalement, on a ce côté un peu réalité qui rattrape le truc. Il y a d'autres exemples qui me viennent pas forcément tout de suite en tête, mais il y a de plus en plus de références comme ça à des choses concrète ou à un état d'esprit des superstars qui est finalement pas un état d'esprit vraiment kayfabe, qui est plus un état d'esprit, une logique que t'as quand tu regardes le catch, enfin quand t'es smart du coup, quand tu regardes le catch et que tu sais si tel mec qu'il est ce match, c'est important pour lui. Donc du coup, je pense qu'il y a ce raisonnement là qui est un peu étrange, mais voilà.
Ouais. Bref, en tout cas, ça ne dit toujours pas où est Nia Jax.
Ça, je ne sais pas, mais c'est vrai que je me suis pas vraiment posé la question. Après, je trouve aussi que peut-être c'était bien de faire un épisode sans, parce que c'est dur de conserver Nia Jax puissante, enfin de conserver son nombre de victoires, etc. Et de faire perdre, enfin, et du coup, de la faire perdre, en fait, c'est dur de la faire perdre. Et si tu veux la faire perdre, ça veut dire que toutes les semaines, il va y avoir un tag team match, toutes les semaines, il va y avoir un handicap ou un truc comme ça, parce que tu peux pas la faire perdre en un contre un. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là, peut-être, qui. Voilà, ils l'ont mise de côté, ou alors c'est une blessure et je dis de la merde.
On verra bien.
Donc c'est l'heure de cruiser, oui, cruisons. On nous rappelle donc du coup que Jacques Gallagher, il est passé heel à 205 Live,
oui,
en association avec Kendrick Lamar.
Ouais, maintenant ça y est, Jacques Gallagher met une chemise, une cravate, un gilet, un pantalon, fini les slips multicolores.
Et donc du coup on a eu un tag team match Brian Kendrick Jack Gallagher contre Mustafa Ali et Cédric Alexander.
L'homme que le charisme a oublié.
L'homme que le charisme a oublié, celle-là, elle était... Elle faisait mal. Après un joli match où Mustafa Ali a montré son athlétisme, hein, très joli genre enchaînement, Monsieur Kendrick case son sliced bread sur Mustafa Ali et gagne le tombé 1-2-3 alors que Cédric arrive une demi-seconde plus tard pour casser le tombé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'était un botch ridicule? Je vote option numéro 2. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match?
Tu penses que c'était un botch? Tu penses que c'était prévu que le tombé soit cassé?
Il est arrivé. En fait, je pense qu'il a pas entendu l'arbitre. Il est arrivé pour casser. Tu vois le mouvement, tu vois qu'il a... Tu fais pas ça. Enfin, je sais pas... J'ai jamais vu un mec faire ça pour donner, je sais pas, un peu plus de tension au résultat du match.
Ouais. Étrange. Je sais pas, non, j'ai pas forcément pris ça comme ça. Bon, voilà, c'est lui qui gagnait, c'est pas très étonnant. Bon.
C'est prêt, non mais.
Ah ouais. Après le match, effectivement, est pas mal. Hein. Il y a du talent dans le ring en termes effectivement d'athlétisme, mais. Au final, ça ne raconte rien, quoi. Enfin, si tu suis pas 205, encore les soirs sont un peu inintéressants. Donc là, ils sont revenus. Ça faisait deux semaines qu'on n'avait pas de match cruiser ou de segment cruiser qui tournait pas autour du titre, autour d'Enzo, autour de Neville, autour de Kalisto. Là, ils sont revenus. Ça faisait donc depuis trois semaines qu'on n'avait pas de match cruiser en dehors de ça. Et c'est vrai que bon, ils reviennent à la même formule, hein. Mais c'est, je sais pas si ça va marcher très longtemps, cette histoire encore, mais bon.
Sur le chat, il y a Raphaël qui nous dit, Raphaël, notre collègue, qui lui dit « Quel dommage pour Gallagher, ils nous refont exactement le même schéma que TJP et Neville. »
Ouais.
C'est vrai que ça n'a pas amené à grand-chose pour TJP. Mais...
Par contre, Neville, ça se permet de marcher.
On verra. Oui, mais Neville, ça marchait avant qu'il fasse ce truc. Mais c'est toujours dur parce que pour que ça marche... Enfin, je veux pas être méchant envers les spectateurs de 205 Live, mais pour que ça marche, il faut que ça soit à Raw, quoi. Enfin, il faut que ça se passe. Il faut que la moitié de la rivalité se passe à Raw, au moins. Ouais. TJ Perkins, ils ont abandonné le truc. La storyline de TJ Perkins, ils en ont parlé un petit peu au début de la storyline. Je crois que ça a dû se finir à 205 Live. Donc voilà. On va repasser aux coulisses avec le Miz qui annonce que pour TLC, il va se permettre d'avoir un quatrième partenaire. Parce que Ambrose en coulisses, je l'ai pas raconté, en coulisses, le Shield, ils ont été interviewés, ils sont super contents. On a l'impression que c'est le Shield des fans du Shield, hein, parce qu'ils sont tous sourire, ils sont tous, ah, trop bien!
C'est exactement ça, ouais.
Ambrose a fait, ouais, on va démonter tout le monde, les équipes de 4, de 5, de 6. Et donc, bref, le Miz en profite, il dit à Kurt Angle, Dean. Il vient de dire, ouais, moi je peux démonter les équipes avec le Shield, tout. Donc j'ai un quatrième participant et il est juste là. Et là il montre une porte. Et ça fait clong, la porte se fait défoncer. Braun. Et Braun Strowman va vers Kurt Angle, il le renifle, il est énervé, il est suant. Et voilà, il n'y a pas besoin d'autre chose. Donc Braun Strowman. Cesaro, le Miz contre le Shield
dans un TLC match.
Il va y avoir des morts.
Ouais, surtout qu'on peut attendre qu'il y ait une partie du mistourage. Donc, à minima, Curtis Axel et peut-être Bo Dallas s'y reviennent d'ici là en plus. Pour ça, moi j'étais un peu surpris qu'ils ajoutent Braun Strowman à tout ça. Alors, pas surpris vu le segment qu'on a vu plutôt dans le show où Braun Strowman se fait éclater par le Shield. Jusque-là, c'est très logique. Mais de l'ajouter au match. Putain, si le Shield gagne, c'est vraiment que c'est la ligue des super-héros, parce qu'en face, il y a du monde. Hein.
Le Shield va gagner.
Oui, mais imagine, contre le Miz, qui est champion de l'Intercontinental, contre Cesaro et Sheamus, qui était ancien champion par équipe, contre Braun Strowman, qui est un ultra-monstre, plus contre Curtis Axel et peut-être Bo Dallas, ils vont se battre contre 5 ou 6 personnes, quoi. C'est chaud.
Et à WrestleMania, ils seront contre Brock Lesnar, Undertaker...
Triple H, Shawn Michaels, Stone Cold.
ceux-là ils vont jamais revenir. Mince, son nom m'échappe. Bref.
Goldberg.
Comment?
Goldberg.
Goldberg, voilà. Goldberg, qui va revenir, Kane.
Ouais.
Voilà. On va mettre une brochette de superstar. Bon, donc voilà, pour ça, ça annonce du grand match en tout cas. Mais parlons donc du coup de ce match féminin, le Fatal Five Way. Ça fait de la peine à voir. Boccia Mania de Brooke contre Bailey. Elle se fait éliminer car c'est un elimination match, hein, on vous l'avait pas dit, ouais. Et on ne l'a pas dit à Michael Cole non plus. Donc du coup Michael Cole il était tout perdu au début, il croyait que c'était la fin du match au bout de 30 secondes. Bailey contre Banks, ça dure environ 3 secondes avant que Fox fasse une sorte de coup de pied par-dessus, coup du marteau, je sais plus comment ça s'appelle, sur Bailey. Qui était en train de faire autre chose, donc du coup elle était baissée, elle se prend le coup dans le dos, tombée, élimination.
Bim, sentence.
C'est gratuit, au revoir Bailey. Donc Emma et Fox s'associent contre Banks au début, puis vite fait l'une contre l'autre, hein, parce que c'est Emma qui tente un roll-up sur Fox. Donc voilà, je vous raconterai pas, mais il y a vraiment des moves qui sont dégueulasses. Enfin, Alicia Fox a fait n'importe quoi. Ensuite, c'est oui. Banks qui maîtrise Fox. Elle s'attaque aussi à Emma. Roll-up d'Emma sur Banks. Ça ne marche pas. Banks réussit à contrer ça en Bank Statement contre Alicia Fox qui tape. Et au moment où elle sort du Bank Statement, donc Sasha Banks, elle se fait prendre par Emma. Dans un roll-up, Emma gagne. Emma a un match dans un pay-per-view pour
ouais.
la ceinture. Wow. Alors, c'était dégueulasse.
Non, c'est pas ça. Pour la ceinture. Hein.
Non, pas pour la ceinture.
C'est pour combattre Asuka. C'était combattre ouais. Asuka. Ouais.
Oui, mais techniquement, c'est un peu comme... voilà. si elle arrive à battre Asuka, c'est la maîtresse de la...
Ah oui, mais jamais ça va arriver, ça.
Mais non, mais... Mais donc voilà, on a Emma, Emma Asuka, je pense.
Mais c'est bien. C'est ce qu'il fallait faire hein, quand tu regardes le roster et le segment avec l'annonce des participantes à ce Fatal Five Way. Sur tous les participants, c'était effectivement Emma qu'il fallait mettre. Contre Asuka en premier match, c'était ici où on sait qu'Asuka va gagner. Donc c'était parfait quoi. Alicia Fox était hors de question. Bailey Sasha Banks, il y a une histoire qu'a construit avec elle. Elles ont un programme. D'ailleurs, il y a eu un peu des éléments encore dans ce match, de tentative de roll-up un peu fourbe. Donc ils vont vers l'espèce de split et de heel turn, on pense, moi j'espère, pour Sasha Banks à terme. Donc effectivement, c'est Emma la plus solide dans le ring qui va donner un opposant, une opposante de qualité, j'espère, face à l'impératrice de demain.
Ouais. Et mais bon, quand même, c'était pas beau. Hein.
Ah non, Alicia Fox, c'est une catastrophe. Catastrophe.
C'était le bordel.
Elle s'est bougée. Elle a une souplesse. Elle a une rapidité de l'athlétisme, mais elle n'a aucun sens de timing en fait. Et de distance, t'as l'impression. Elle a un problème de distance et de timing. Elle sait pas quand est-ce qu'elle doit prendre les bumps, quand est-ce qu'elle doit frapper. Elle frappe toujours quelques centimètres à droite ou à gauche, etc. Enfin, c'est catastrophique, quoi.
Alors, sur le chat, il y a Camille Bourg qui dit « Emma va servir de paillasson à Asuka pour la deuxième fois après un takeover à NXT. » J'ai envie de mettre un bémol là-dessus. Mm. Le match était très bon. Mm. Le Emma-Asuka. Donc, bon, moi, si elle perd dans un beau match... C'est plus s'il décide d'enfoncer un peu plus Emma et oui. Le match était nul de la faute de Fox. D'accord, ok, donc oui. Tu parles du match de ce soir, d'accord. Enfin, donc voilà.
Oui, ça va dépendre de ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont faire squasher Asuka
Emma.
Mais c'est pas ça qu'ils vont faire. Ils vont faire un match qui va être un peu, qui vont montrer un peu l'arsenal d'Asuka et qui va aider Emma, je pense, à monter un peu en montrant qu'elle peut tenir dans le ring face à Asuka. Même si elle va perdre.
Faut montrer aux gens pourquoi ouais. Asuka est le futur de demain. Donc, on a ensuite une promo de Finn Balor au milieu du ring, expliquant que Bray est juste une lopette qui ne sait faire que des mind games et que finalement c'est Bray qui a peur. Et ensuite, Bray, forcément, il apparaît sur le Titan Throne. Il parle de Sister Abigail. Et puis, il dit, elle est là ce soir et tout ça. Et puis après, on nous fait des super effets spéciaux où en fait, Bray, il met juste un voile noir et du maquillage. Et puis maintenant, c'est Sister Abigail. Il a un doublage de voix suraiguë. Et donc du coup, Sister Abigail sort le même genre de discours que vous avez de Bray Wyatt, mais avec un effet vocal dessus. Plus tard, en coulisses, Finn Balor réagit à Sister Abigail et il dit j'ai vu Sister Abigail et c'est une vraie menace et j'ai un peu peur, mais maintenant je sais ce que je dois faire. Trois petits points. Voilà.
Ouais. Bah c'était pas tout suite hein, ce segment. L'effet spécial, parce qu'après Roya, donc il est sur sa chaise et qui après d'un coup est en mode Sister Abigail, du coup il y a une transition, ils ont fait une espèce de morphing flou circulaire qui est dégueulasse. Mieux d'image, c'était horrible. Après le costume entre guillemets, ce qu'on en voit pour l'instant, effectivement on voit du maquillage. Bon bah tant qu'on le voit pas en pleine lumière mais du ring, j'ai envie de dire ça, on s'en fiche un petit peu. L'effet de voix m'a pas gêné. Je trouve que ça faisait une voix dualité homme et féminin en même temps. L'effet audio marchait, mais l'effet transition visuel était horrible, 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 horrible. Donc voilà, après cette storyline et ce développement de ce soir, ça nous écrit un peu l'histoire entre les deux comme du Dragon Ball finalement. On a Finn Balor qui est en mode normal, puis en mode Super Saiyan Demon Balor. Et puis on a Bray Wyatt maintenant en mode normal, dieu mangeur de monde, et mode Super Saiyan Sister Abigail. Donc quel match on va avoir? Est-ce que le prochain match ça va être Wyatt en mode Abigail versus Balor normal et Wyatt gagne, et puis il y aura un Demon Balor contre un Abigail Wyatt, on sait pas. Mais c'est vraiment du DBZ quoi.
Non, mais ce qui est embêtant, c'est que... Même si de base l'idée pour moi est mauvaise, mais même en utilisant cette idée-là, pourquoi ils n'ont pas simplement décidé que Sister Abigail aurait vraiment une diction différente, une façon de parler différente, quelque chose de beaucoup plus étrange, marqué, et beaucoup ouais. moins monotone que tout ce qu'on a entendu de Bray Wyatt depuis des années. Moi j'aurais aimé que justement au moment où il se transforme en Sister Abigail, bah il prenne vraiment une voix spéciale qui montre un autre personnage à travers ça. Tout ce que j'ai entendu moi, c'est Bray Wyatt avec un filtre dessus. C'est tout ce que j'ai entendu, c'est la même diction, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes menaces, c'est voilà. Une nouvelle fois, on va s'ennuyer jusqu'au pay-per-view où ils nous feront un bon match. Donc voilà. On arrive à la fin. Donc du coup, c'est Kalisto en coulisses qui ressemble au pire cosplayer de tous les temps qui dit qu'il est inspiré par Eddie Guerrero et Rey Mysterio parce qu'on connaît aucun autre lutteur mexicain à la WWE.
Voilà. Et pourtant en ce moment il célèbre l'héritage hispanique la WWE ce mois-ci, donc c'est bien.
et donc c'est l'heure de ce match tant attendu, Enzo contre Kalisto. Dès que Enzo arrive, Corey Graves lui chie dessus pendant de longues minutes hein, donc Enzo il se permet une petite promo sur les cruisers qui sont autour du ring hein, pour faire les lumberjacks. Il traite les cruisers de soft et Corey Graves il dit je dirais plus au lieu de AFT il dirait plutôt bored comme ennuyé, enfin ouais. Bref, le match n'est pas affolant hein. Kalisto maîtrise bien au début, mais Enzo lui fait rebondir la gorge sur les cordes à un moment, et puis donc voilà, c'est un petit passage à vide pour Kalisto. Plus tard, le Mexicain reprend de la vigueur. Il fait un crossbody sur Enzo, compte de deux. Les deux s'échangent pas mal de tombées. Hein. Enzo est plutôt malin dans le ring, même si techniquement il est pas ouf. Mais en tout cas, on le montre assez malin. Booker T parle de Street Fighter, hein. pas le jeu vidéo. Mais, donc du coup d'un petit malfrat quoi. Enzo, il a la science du malfrat. Et puis Kalisto il continue ses acrobaties. Enzo commence à se faire violenter par la division Cruiser à l'extérieur, à force d'aller à l'extérieur. Et puis, à un moment, Enzo, il pète un câble et puis il frappe Mustafa Ali. etc. Mustapha il est pas content, il monte sur le bord du ring, il fait oh, toi, toi, qu'est-ce que c'est pas très bien. À ce moment-là, il y a je sais pas qui, peut-être c'est Kendrick qui dit à Mustapha, eh, tu parles pas comme ça à Enzo, même si on le déteste tous. Et,
c'est enfin, Devary, c'est Aria Devary.
Ah, c'est Devary,
oh, ouais.
D'accord. Donc, c'est Devary qui dit ça. Et Kalisto, à ce moment-là, profite pour faire une souplesse sur Enzo depuis le poteau, retombant vers l'extérieur et sur le troupeau de Cruiser qui était en train de se chamailler. Alors que Kalisto allait chercher Enzo, donc du coup qui était au milieu du ring, complètement sonné, il se fait prendre dans le finisher d'Enzo, dont je ne connais pas le nom là, le truc où il se met à terre et puis il met un pied dans la face.
C'est un hit my feet en fait, c'est, il cale son pied sur la mâchoire, il prend le bras, puis ça fait... Bam.
Donc voilà, tombé de 1, de 2, mais Mustapha Ali vient pour casser le tombé. Enzo va mettre une clothesline donc du coup à Mustapha hein, qui est reparti dehors. Il revient à l'extérieur, donc du coup Monsieur Amore et Kalisto réussit à coincer le roquet dans une salida del sol, donc du coup à partir du poteau et fait le tomber. 1, 2, 3, Enzo champion, c'est fini. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match?
Dans le ring, eh ben, à part finalement le spot du superplex de Kalisto sur Enzo à l'extérieur, sur tout le roster qui était impressionnant, c'est ce truc qui a réveillé le public à mon nez, qui effectivement criait les holy shit des Six Awesome. La salida del sol au final à partir du poteau était jolie aussi. Par contre, après tout le reste, l'attitude des Lumberjacks était complètement conne. On le disait tout à l'heure, hein, ils sont stupides, les Cruiserweights, puisque pour resituer le débat, tant que Enzo est champion, ils ont plus droit à un title shot. Si Kalisto gagne, eh bien c'est bien, ils auront droit à un title shot potentiellement. Enzo leur crache à la gueule depuis 3 semaines et il y a encore des gens des Cruiserweights qui vont pas tabasser Enzo dès qu'il est hors du ring et qui vont pas aider Kalisto. Ça c'était con. Ils ont gardé le côté des Lumberjacks que j'aime pas généralement, puisque c'est les face vont forcément aider, protéger le face du match et renvoyer le heel au centre du ring, et les heel vont attaquer que le face. Et ça, envers toute logique de storyline, etc. Donc ça, c'était con. C'était très con.
Ouais, c'était pas formidable, mais voilà. Kalisto, nouveau champion. C'est Cédric Alexander qui fonce sur Kalisto pour ouais, limite l'embrasser hein, à ce moment-là. Soulagement de Cédric, on ne sait pas vraiment pourquoi. Peut-être parce que c'est cette histoire de d'homme le moins charismatique du monde.
C'est ça bah, parce que c'est un des gros faces de 205, donc il est content qu'un gentil la ceinture et pas ce connard de Enzo. Et pour pouvoir avoir un match pour la ceinture un jour.
Bon, voilà, on a terminé pour ce Raw fort mouvementé. Hein. Ouais. Vous avez pu le constater, il s'est passé quand même pas mal de choses bonnes et moins bonnes. En parlant de choses bonnes et moins bonnes, c'est l'heure de la note finale, le dernier mot.
Le mot de la fin.
Le mot de la fin. Yes. Je ne sais plus comment fonctionnent les rubriques de ce podcast. donc, du coup, par contre, je me souviens du jingle. Un top, un flop et une note.
Yes.
c'est à toi, Amiral.
Vas-y. Alors, le flop, Alicia Fox dans le match féminin. Au secours, ne plus faire ça, merci, c'est dangereux pour les autres. Le top, forcément, voilà, la mallette de Proust, on parlait, le shield hein, qui fonce comme des rapaces autour du ring sur les autres, très très cool. Moi j'ai bien marché. Et la note, un Raw d'Anti, il y avait des trucs très cool, des trucs très moyens, ça va être un 3.
Ok,
et j'enlève 0,5 juste pour le t-shirt du shield que je trouve dégueulasse. Et c'est gâcher le moment que de leur foutre ça sur la peau maintenant.
Eh ouais. Mais bon, que voulez-vous.
Fashion faux pas. Hein. Fashion faux pas.
Le flop pour moi, c'est le match des filles en général. C'est pas que Alicia Fox, même si Alicia Fox et Dana Brooke étaient des calamités dans ce match, mais c'est le match des filles, le booking du match des filles. On peut arriver au même résultat avec un bon match. Mais c'est juste là, on a l'impression que le match, il a été écrit 5 minutes avant. Personne savait vraiment ce qu'elle devait faire. Les tombées, c'était nawak. C'était genre... Ok, toi t'es là. Ok, roll up. Il y a pas eu de tension entre deux personnes dans ce match. Non. Jamais. C'était juste. Eh les filles, vous avez 3 minutes pour faire un match pour affronter Asuka. Ok. Donc voilà, c'était très mal écrit. Je suis content pour Emma, mais voilà, c'est très mal écrit. Le meilleur moment. Ouais, je peux pas vraiment départager entre les deux moments, mais le shield, ouais. On a beau le voir à 10 km, ça reste
plaisir.
Un super moment, mmh. et on sait qu'il va y avoir d'autres super moments, parce que ces trois-là sont faits pour être ensemble,
bon. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, du coup, tout ça nous mène, vu qu'il y a le match, on sait, concernant les trois du Shield et Miz, Cesaro, Sheamus et Braun Strowman à TLC, ça fait, comme nous rappelle Rafa sur le chat en live, qu'à TLC, il n'y aura pas priori de match pour la ceinture intercontinentale ni les ceintures par équipe, donc, et on n'aura pas non plus Lesnar qui va venir avec le titre universel. Donc TLC, peut-être que les seuls titres pour un pay-per-view qui seront disputés, les deux seuls, c'est le Cruiserweight et le titre féminin.
Et vous avez la preuve une nouvelle fois que une bonne rivalité n'a pas besoin de titre.
Exactement.
Mais ça serait bien quand même de valoriser les titres.
Ouais, va falloir le remplir, hein, va falloir la remplir la carte du coup, parce que ça monopolise beaucoup de monde ce match. Juste ce match-là, ça va monopoliser énormément de personnes.
Ouais, bah c'est sûr que là il s'est un peu coincé. Il s'est un peu coincé.
Mais il y a Samoa Joe qui devrait revenir d'ici la fin du mois, peut-être pour TLC. Croisez doigts.
Moi, c'est cette décision de garder la ceinture sur Lesnar, moi, c'est surtout tout ça. Je l'avais dit au moment où ça s'est passé, j'ai dit, je comprends pas. C'est même pas une question de faire gagner Strowman, c'est une question de garder la ceinture dans l'émission. Ouais. Voilà, quitte à même faire la ceinture à Strowman rapidement pour je ne sais qui, si vous préférez quelqu'un d'autre, mais là c'est on va arriver à ça. J'aimerais bien calculer, est-ce qu'on va arriver à une année de champion qui n'est jamais là, parce que on va pas être loin là. Donc c'est dommage,
on verra bien.
C'est tout pour ce catch-up Raw. N'oubliez pas, vous pouvez nous écouter sur iTunes, sur PodCloud. Vous pouvez nous regarder sur YouTube. Vous pouvez nous regarder même en live sur YouTube si vous suivez notre Twitter @catchupcdc, parce qu'on vous prévient. Maintenant, on est un peu organisé. On essaye. Donc du coup, on vous prévient sur Twitter. Généralement dans la journée où on va enregistrer, hein, le midi, on tweet à quelle heure on va être en live. Si vous voulez commenter en direct, qu'on cite vos commentaires en direct, que vous soyez des stars de demain. Donc voilà. Je remercie énormément l'amiral.
Un plaisir.
Et je vous souhaite à tous les auditeurs et les gens dans le chat, une très bonne semaine pleine de catch. Salut.
Salut.